Oui, merci Gabriel. J'ai ramené mon cœur ce matin. Vous l'aviez peut-être déjà vu dans le passé. Ce que Dieu désire de nos vies, ce que Dieu désire de notre relation avec lui, c'est nos cœurs. Hein? Dieu n'a rien à faire de nos belles chemises, de nos belles cravates ou de quelle que soit notre apparence. Ce que Dieu désire dans notre relation avec lui, c'est notre cœur. Et notre cœur, Dieu nous enseigne clairement dans sa parole que ce qu'il désire, bien, c'est qu'on l'aime de tout notre cœur, qu'on ait cette relation-là avec lui où il en fait complètement l'objet et c'est lui qui nous remplit. Alors, chacun d'entre nous, on a cette responsabilité-là ou ce choix-là de mettre Dieu, si je peux dire, ou de donner la place à Dieu dans nos cœurs. Le problème avec ça, c'est qu'on peut remplir notre cœur de bien d'autres choses. Vous avez peut-être déjà lu des fois dans l'Ancien Testament, on voit des idoles, on voit toutes sortes de choses qui semblent prendre la place de Dieu. Et tout ce qui prend la place de Dieu, ben, on peut l'appeler une idole. Et le problème, c'est que quand on donne une autre place qu'à Dieu dans notre cœur, malheureusement, c'est difficile d'inclure Dieu là-dedans. Parce qu'ils vont cohabiter difficilement. Ce matin, on arrive dans un texte dans Jacques où Dieu va nous encourager à bien choisir ce qu'on va mettre dans notre cœur, à bien choisir là où on va placer notre trésor. Laissez-moi, avant que vous tourniez dans Jacques, peut-être, là, on va lire justement dans Jacques 5, mais avant que vous tourniez, je vais simplement vous faire une citation du Sermon sur la montagne, de Matthieu 6, et versets 19 à 21. Je vais vous le citer, vous pouvez juste le noter si vous voulez. Jésus disait, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Qu'est-ce que tu vas mettre dans ton cœur? Qu'est-ce que tu vas mettre? J'ai apporté, juste faire une autre citation, Luc 16, 13. Jésus disait, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » Jésus lui-même nous dit qu'il faut faire un choix. Ce qu'on va placer dans notre cœur. On va placer un maître. Là où on va placer notre trésor, là aussi sera notre cœur. Et j'ai illustré ma relation avec Dieu ou la place que Dieu prend dans ma vie par la Bible. Je voulais pas chercher une meilleure illustration. Là, je pense que ça résume sa parole, sa volonté, ce qu'il veut nous communiquer. Et la relation que je vais avoir avec Dieu, ben je peux la placer dans mon cœur et la chérir et d'alimenter cette relation-là avec lui et de lui donner toute la place et de lui faire de Dieu mon trésor. Et si Dieu devient mon trésor, mais là aussi est mon cœur, dans cette relation-là que j'ai avec Dieu. Mais ce que Jésus nous dit dans Luc 16, il nous parle de mammon. Hein, moi, des fois, j'ai traduit ça en québécois, « mammonnet ». Hein? Mammon, c'est le dieu de l'argent. Mammonnet. Mais vous savez, on parlait des idoles qu'il y a dans l'Ancien Testament, puis on se dit, ah, mais il n'y en a plus de nos jours, il n'y a plus d'idoles de nos jours. L'argent en fait partie. L'argent peut être une idole. Et je ne vais pas nuancer tout le long, je vais nuancer maintenant, et je ne vais pas le nuancer tout le long. L'argent peut être un bon serviteur, mais elle est un mauvais maître. Alors, la façon qu'on va aborder l'argent ce matin, c'est toujours sous la perspective que l'argent ou nos richesses deviennent notre maître. Comprenez? Je suis pas en train de dire que maintenant, brûlez votre argent, brûlez vos biens, puis maintenant, faites vœu de pauvreté. C'est pas ça que les Écritures nous disent. Mais quand l'argent ou nos richesses deviennent notre maître, c'est là qu'il y a un problème. Parce que Dieu me dit, quand que tu places ton argent dans ton cœur, c'est ça qui devient ton trésor. C'est ça qui devient ton maître. C'est ça qui devient cette relation-là. Même si tu dis, oui, mais j'aime Dieu, mais Dieu est en train de me dire, Mais regarde ce que tu as dans ton cœur. Regarde le maître que tu as placé, là où tu as placé ton trésor. Et vous savez, ce que Jésus nous enseigne, c'est que les deux rentrent pas. Même si je force, les deux rentreront pas. Et si je force, mon cœur va briser. Ça rentre pas. Nul ne peut servir deux maîtres. Je peux pas dire, ah, mais moi, j'ai Dieu, puis j'ai maman, les richesses, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est quelque chose que jamais j'abandonnerai. On peut pas cohabiter maman et Dieu dans notre cœur. Ce matin, ce qu'on va voir à travers le texte de Jacques, c'est cette vérité-là, que Dieu veut être ton trésor. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que Dieu est ton trésor? Ce matin, le texte qu'on va lire de Jacques, c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas un texte nécessairement léger, puis qui va nous mettre un... Qui pourrait, au premier regard, nous mettre un baume sur le cœur. Il est assez virulent. Je dirais même cinglant à l'égard de l'attitude des hommes face aux richesses. C'est le texte qu'on va lire. Mais ce que je veux que l'on voit à travers le texte de Jacques, c'est que s'il y a une condamnation d'avoir placé notre trésor dans les richesses, bien, il y a aussi l'aspect positif que de placer notre trésor en Dieu. Et c'est cet aspect-là que je veux voir ce matin avec vous à travers les Écritures. Le danger de placer les richesses comme notre Dieu, mais la bénédiction que l'on a que notre trésor soit placé en Dieu. J'aimerais qu'on fasse un mot de prière avant qu'on ouvre les Écritures, que Dieu vienne à chacun d'entre nous toucher nos cœurs. Seigneur, on vient devant toi, on veut te louer et t'adorer pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Tu nous as donné ta parole, tu nous as donné ta personne. Ce matin, on veut que tu viennes nous toucher, que tu viennes nous parler, que chacun d'entre nous, on se sente concerné par ce que tu as à nous dire. Que notre vie, Dieu, à travers l'enseignement que tu nous communiques de ta parole, se transforme. On veut te donner accès à nos vies, on veut que tu la transformes, on veut se repentir de certaines pensées, certaines actions. Et viens mettre le doigt sur ces choses-là pour qu'on puisse en être conscient. Et dans notre ton fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est ça que Jésus disait. Vous savez, l'argent, ce qu'on va aborder ce matin, c'est la liberté, la sécurité et le pouvoir. L'argent, c'est le type de promesse, ou les richesses, c'est le type de promesse qu'elle peut nous proposer. Hein, vous êtes d'accord? L'argent nous propose soit la liberté, les richesses nous proposent soit la liberté, soit la sécurité, même le pouvoir aussi. Je pense qu'il faut qu'on se pose des questions quand même avant qu'on lise et qu'on aborde ce que Jacques va dire sur les richesses. Est-ce que Dieu est contre les riches? Est-ce que Dieu est contre les richesses? Non? Dieu est riche. Dieu est lui-même riche. Dieu les donne les richesses. Dieu communique sa richesse. Et ça, c'est clair dans les Écritures, comment est-ce que Dieu est riche? Puis comment est-ce que Dieu est généreux de sa richesse, par exemple, de sa gloire, de sa science, de sa personne. Dieu a donné la richesse aussi à plusieurs hommes de l'histoire biblique. On peut parler de Salomon, de Job. Hein? Des fois, on dit « pauvre comme Job ». Mais ça, moi, des fois, être pauvre comme Job, si vous regardez la fin de son histoire, il était particulièrement très riche. Si vous regardez, par exemple, Joseph, Abraham et Lot. Hein? Abraham et Lot ne pouvaient même plus cohabiter ensemble. Il y avait trop de possessions. Il a fallu qu'ils se séparent. D'autres hommes comme, par exemple, Barnabas, Philémon, Lydia, même dans le Nouveau Testament, des gens que Dieu a donné la richesse, que Dieu a donné des biens, puis en abondance. Alors, Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre les riches. Je ne l'aborderai pas au travers de la prédication ce matin, mais Dieu nous communique, par exemple, dans 2 Corinthiens, que si Dieu communique la richesse à un, puis pas nécessairement à l'autre, c'est qu'il veut aussi qu'il y ait un principe d'égalité pour qu'on puisse se soutenir mutuellement, vice-versa. Alors, il y a un principe d'égalité que Dieu communique, même à travers la richesse, pour qu'on puisse prendre soin. Et Paul disait lui-même, vous avez bien fait de prendre soin de moi dans les difficultés, mais aussi de prendre soin de différentes ressources pour moi. Maintenant, c'est quoi un riche? On compare nos richesses souvent avec nos autos. Hein? où on compare nos richesses avec soit la maison ou soit peu importe les biens que l'on a. J'aimerais vous suggérer, et vous le savez comme moi, qu'on a tous accès à des soins de santé, qu'on a tous accès à l'éducation, qu'on a tous accès à l'eau et à la nourriture pour la plupart d'entre nous, pour le plus grand nombre d'entre nous. On a tous accès au logement, à l'assurance sociale. Notre société est riche. Nous sommes riches. Et ce n'est pas le lot de toutes les sociétés, de toutes les nations qu'il y a sur la Terre. On est immensément riche comparativement à une forte proportion de d'autres nations. Puis quand Dieu va dire dans le texte qu'on va aborder ce matin, « À vous maintenant riches », je crois que chacun d'entre nous, on devrait relever la tête puis écouter qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Parce que chacun d'entre nous, on a une forme de richesse qui nous est donnée. On a plusieurs biens qui nous sont donnés. Maintenant, ça peut différer d'une personne à l'autre à l'intérieur de notre propre société. Évidemment, il y en a qui sont plus riches puis d'autres moins. Mais chacun d'entre nous, dans notre société, on a accès à des richesses. Il faut juste s'arrêter pour en prendre connaissance, pour en prendre conscience. Et même certains d'entre nous, vous êtes immigrants et vous avez connu une autre société aussi, et que vous reconnaissez même la richesse dans laquelle on est, que nous-mêmes, quand on est dedans, on s'en rend même plus compte. Mais ça, c'est notre cas. On est riche. On a des possessions, et Dieu nous confie des choses. Comment est-ce qu'on va se comporter avec ça maintenant? Quelle place est-ce que ça, nos possessions, nos biens, notre argent, va prendre place dans notre cœur, ou est-ce qu'il va devenir un serviteur? Tournez avec moi, vous y êtes peut-être déjà, dans Luc. Non, c'est pas Luc, excusez. Jacques 5. On va lire les trois premiers versets. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Arrêtons là pour l'instant. Je vous disais tantôt, c'était pas, ça flatte pas nécessairement dans le sens du poil. Hein? Jacques, la façon qu'il aborde ce point-là, c'est l'aspect, je pourrais dire, le plus punché de toute son épître qu'il a verbalisé. On peut se poser la question, est-ce qu'il s'adresse à des croyants ou à des incroyants? Je pense que Jacques, étant aussi responsable d'une église importante, il y avait plusieurs personnes au sein de l'église qui disaient que Dieu était leur trésor. Mais qu'à travers peut-être leurs œuvres, ils avaient besoin d'être confrontés à ce qu'il y avait réellement à l'intérieur du cœur. Pour Jacques, tout au long de son épître, c'est la foi authentique. La foi authentique va apporter des œuvres authentiques. Maintenant, la façon que Jacques vient d'adresser ces trois premiers versets-là, je pense que Jacques est en train de lancer un test ou de lancer une épreuve pour qu'on puisse évaluer ce qui se passe dans nos cœurs. Et si c'est ça qui se trouve comme trésor dans mon cœur, bien, il y a une difficulté. Et c'est ça que Jacques vient de dire dans les trois premiers versets. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Placer son trésor en Dieu procure la liberté. L'argent, quand on a l'argent pour trésor, elle nous crée l'illusion de liberté. L'argent, pour nous, elle procure tous les biens dont on pourrait avoir de besoin, hein? Puis même plus, même au-delà de l'abondance. Elle va nous procurer, comme on disait tantôt, soit une voiture, une maison, la nourriture, le vêtement, mais même le superflu qu'on peut ajouter à tout ça. Et plus on a de l'argent, plus cette illusion-là de liberté peut faire partie de notre cœur, peut être à l'intérieur de notre cœur et dire « Wow, je peux me permettre bien des choses. » L'argent est un dieu, l'argent est une idole. En illusion, elle nous donne même ce que notre cœur désire. L'argent, en illusion, qu'elle est notre maître, elle nous donne même ce que notre cœur désire. Mais ce n'est pas une bonne façon que de voir et d'aborder l'argent. Si on a l'argent, puis qu'on est pris dans cette illusion-là, ou la richesse, puis qu'on est pris dans cette illusion-là que, à cause de ça, on est libre. Mais de quoi d'autre est-ce qu'on a de besoin? Quelle autre liberté est-ce qu'on a de besoin si on trouve une pleine liberté dans les richesses que l'on a? Regardez le verset 5. Jacques, il dit, « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. » Quand que notre Dieu, quand l'argent est devenu notre Dieu ou notre idole, Dieu est en train de nous dire, vous devriez réaliser où vous en êtes. Vous devriez réaliser la repentance et le revirement que vous devriez avoir dans vos cœurs à cause de la place qui est prise dans vos cœurs par la richesse. Et pleurer et gémisser sous-entend vraiment une insistance, une grande force d'une tristesse qui ressemble à un deuil d'un être proche. Dans le premier siècle, ben il y avait cette façon d'exprimer à travers justement une funéraille ou un deuil où il y avait des pleurs, des cris. Les gens étaient profondément consternés. Aujourd'hui, on peut voir ça aussi peut-être dans d'autres cultures, peut-être même dans la nôtre, c'est moins familier. Mais de pleurer, de gémir cette tristesse qu'on devrait avoir face à ce qu'on réalise que notre cœur est peut-être pas placé à la bonne place et qu'à cause de cela, des malheurs viendront sur vous. Quand je place mon trésor en Dieu, ça procure la vraie liberté, une réelle liberté. Comparativement, quand l'argent devient mon maître, elle me donne certainement une illusion de liberté, mais c'est une illusion qui ne dure pas. Regardez les expressions de richesse terrestre, je peux dire, que Jacques emploie. Vos richesses sont pourries. Imaginez que vous avez des richesses pourries puis que vous voulez les vendre pour obtenir pour sa valeur. Mais une richesse pourrie, ça vaut rien. Essayez d'aller vendre votre maison si elle est pourrie, vous aurez rien. Vos vêtements sont rongés par les teignes. Les riches du premier siècle avaient ces vêtements brodés où ils pouvaient même avoir de l'or et c'était vraiment évident, tu sais, que la personne était riche puis qu'elle mettait sa richesse même dans un point de vue extérieur. Mais Jacques est en train de dire, vos vêtements sont pognés par les mites. Ils ont des trous dedans. Votre or et votre argent sont rouillés. Avez-vous déjà essayé d'acheter quelque chose avec de la rouille? Je suis toujours de misère à vendre mon char, moi, à cause de la rouille. La rouille nous amène plus grand-chose. Bien, ça, c'est les richesses que Dieu est en train de nous communiquer qui sont sur la terre. Elles nous procurent une illusion de liberté. Mais qu'est-ce que je peux obtenir avec ces richesses qui sont éphémères? Qu'est-ce qui va durer avec ces richesses qui sont éphémères? Tout est une question de perspective. Je vais vous faire une citation. 1 Timothée 6, 9 et 10 dit, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. » Notez les expressions, si je pourrais dire, négatives face au désir d'enrichissement ou l'amour de l'argent. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans quoi? Dans la ruine et la perdition. Est-ce que ça, le désir, et là on ne parle même pas nécessairement des richesses qu'on possède, ça peut même être le désir d'enrichissement. Mais même ce désir-là, ce que les Écritures nous disent, c'est qu'elle est bien loin que de nous donner la liberté. En fait, elle nous donne la ruine et même la perdition. Est-ce que je suis libre quand je suis perdu? Mais non, c'est le contraire. Tout est une question de perspective à l'endroit où on va fixer nos yeux, à l'endroit où on va regarder. Quand on regarde ces richesses auxquelles on a peur, on peut facilement oublier de regarder les richesses célestes que Dieu nous donne. Ces richesses que l'on a sur la terre sont éphémères, ne durent pas. C'est un peu comme... peut-être certains d'entre vous allez partir cet été, vous allez aller faire du camping, vous partez avec une tente, et puis pas nécessairement un Winnebago, là, ça c'est une autre affaire, là. Mais vous partez avec une tente, et puis là, tout ce que vous avez pour dormir, c'est une toile. Hein, tu sais, c'est une toile, une tente, c'est une toile avec un zipper. Pas plus compliqué que ça. Et puis, ça a des piquettes. Mais là, vous dites, ah, on est bien, c'est le fun, c'est agréable, et puis là, vous passez le mois de juillet, vous dites, ah, on reste au mois d'août, puis ah, on reste au mois de septembre, puis là, mois de novembre, décembre arrive, puis on est-tu bien dans notre tente? Hein? Allez, laisse-moi vanter, on va planter nos piquettes un peu plus creux, pour être sûr. Mais humainement, on agit semblable à ça, c'est-à-dire que ce que l'on a sur la terre, c'est l'équivalent d'une tente. C'est l'équivalent de quelque chose de passager. Et on doit s'en rappeler. Parce qu'à partir du moment qu'on se met à se dire que ça, c'est le sens de la vie, que ça, c'est ce qui dure, puis ça, c'est ce qui donne réellement la liberté, on est en train de perdre de perspective la réalité de la vraie liberté que Dieu donne, comparativement à l'esclavage que Mammon va nous faire faire, ma monnaie. C'est où je place mon trésor? C'est là aussi qui va être mon cœur. Et si mon trésor, je fais le point avec Dieu, puis je réalise qu'il est placé justement dans mes richesses, dans mon désir d'enrichissement, je devrais lever les yeux vers le ciel. Puis dire, Dieu, j'ai oublié la liberté que toi tu me donnes, que toi tu veux me communiquer. Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Est-ce que vous avez confiance en Dieu? L'aspect terrestre ne nous demande pas beaucoup de confiance. Parce qu'on le voit, on le goûte, on le touche. Mais quand je place mon trésor en Dieu, ça me demande de la confiance. Ça me demande une dépendance de lui. Est-ce que j'ai une foi authentique qui me conduit à une pleine dépendance de Dieu? Tant ce qui concerne mes richesses que tous mes autres besoins que Dieu me confie, est-ce que mon trésor est placé en Dieu et réellement en Dieu? Se confier en Dieu jour après jour nous rend libres. Quand que j'ai donné ma vie, parce que lui-même m'a donné sa vie, Dieu m'a libéré. Dieu m'a donné la vraie liberté, la liberté de mes péchés, mais même encore plus, dans cette vie abondante que Dieu me communique, Dieu me rend libre d'esprit, libre d'inquiétude. L'argent, ça en crée de l'inquiétude, hein, vous êtes d'accord? Les richesses, ça en crée de l'inquiétude quand ils se mettent à pourrir, quand ils se mettent à s'en aller, quand ils se mettent à s'envoler. Et notre cœur, notre esprit n'est pas libre. Mais Dieu ne changera jamais. La liberté que je trouve en Dieu est une liberté d'inquiétude, de tourment, une liberté de tentation, une liberté de piège, une liberté de désir pernicieux. Dieu donne la vraie liberté. Contrairement aux richesses qui peuvent devenir notre idole, notre maître. Nul ne peut servir deux maîtres. Car soit qu'on va aimer un, mépriser l'autre, servir un, puis pas servir l'autre. Placer son trésor en Dieu, ce qu'on vient de dire, c'est que ça procure une réelle liberté. Et notre cœur va être là aussi. Placer son trésor en Dieu procure la sécurité. Avoir l'argent pour trésor crée l'illusion aussi de sécurité. Regardez, tournez avec moi dans Luc 12. Gardez un doigt dans Jacques, on va y revenir. À partir du verset 16, Luc 12, on va lire 16 à 21. Jésus a fait cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. On parle d'un homme riche qui avait des terres, et en plus de sa richesse, ses terres ont beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, « Qu'est-ce que je vais faire? Hein, » il y avait des soucis que d'autres n'avaient pas. « Qu'est-ce qu'il allait faire avec tout ça? « Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. » Verset 18. « Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Toute cette parabole nous est racontée dans cette conclusion que Jésus veut nous amener à réfléchir que celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu a manqué, est tombé dans l'illusion de la sécurité. Cet homme-là, il se bâtit des greniers parce que sa récolte est plus qu'abondante. Et puis, une fois que tout est placé, que tous ses placements sont bien sécurisés, qu'est-ce qu'il se dit? Maintenant, repose-toi, mange, soucie-toi plus de Dieu. Regarde là dans quoi tu dors, tes greniers sont remplis. C'est quoi qu'il avait perdu, ce gars-là? La perspective éternelle, la perspective de Dieu. Il avait perdu le fait que, oui, sur la terre, il y avait une illusion de sécurité. Hein? Il pouvait vivre longtemps, manger, boire, et puis ne plus se soucier de l'aspect éternel. On a tous le même potentiel de croire à cette illusion-là de sécurité face à nos richesses. On peut peut-être condamner rapidement cet homme-là, mais on peut tomber dans le même piège. Qu'une fois qu'on est sécurisé, qu'on est bien, est-ce qu'on a besoin de Dieu? Je parlais tantôt accès aux soins de santé. Quand on est malade, là, elle est placée où notre foi? Dans le système de santé ou en Dieu qui donne la guérison? On peut se poser la question sur tous les aspects comme ça de nos vies. Bien que Dieu peut se révéler et donner une guérison à travers un système que l'on a, sans le condamner, mais c'est toujours Dieu qui opère la guérison. Et je cite une fois de temps en temps, Asa, là, c'est un roi de l'Ancien Testament, il souffrait des pieds. Et puis, il y a un texte, il y a un verset qui nous dit que, à place de mettre sa confiance en Dieu, il s'est tourné vers les médecins. C'est un roi. Il avait la richesse, il avait accès à des soins de santé. Puis, plutôt que de se tourner vers Dieu, il s'est tourné vers ses richesses et accès à ce qu'il avait. On a tous ce même potentiel que de croire à l'illusion de sécurité. Qu'est-ce qui vous rend sécure? Qu'est-ce qui vous sécurise? Qu'est-ce qui fait que le soir, vous dormez sur vos deux oreilles? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, c'est un peu difficile, là. Hein? Mais qu'est-ce qui fait que vous dormez sur vos deux oreilles le soir? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en paix? Vous la trouvez où, cette paix-là, cette sécurité-là? Si c'est les richesses, c'est bien malheureux. Parce que vous ne dormirez pas longtemps sur vos deux oreilles. Si c'est parce que votre cœur est placé en Dieu, vous allez dormir longtemps sur vos deux oreilles. Parce que vous allez reconnaître que c'est Dieu qui donne toute forme de sécurité et une sécurité qui dure. Mais c'est un choix qui demande beaucoup de confiance. Revenez avec moi dans Jacques. Regardez la fin du verset 3. On va lire la fin du verset 3 puis on va lire le verset 5. Ces riches-là que Jacques va aborder, eux, ils ont trouvé leur sécurité autrement. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Il y a des temps difficiles, il y a de la persécution, il y a des tribulations pour les chrétiens qui sont dans ce premier siècle-là. C'est les derniers jours. Et où ils ont trouvé leur sécurité? Dans les richesses. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours et vous y avez mis votre confiance, votre sécurité. Regardez le verset 5. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Il y avait des temps difficiles, il pouvait y avoir un carnage, mais eux se sont trouvés une sécurité à travers les richesses, à travers ce qu'ils pouvaient se rassasier. Qu'est-ce qui les tourmentait, ces gens-là, comparativement à des gens qui étaient de plus faibles revenus, qui n'avaient pas la capacité de se tourner vers des richesses, mais ils ont trouvé une sécurité, ces riches-là. À l'extérieur de ce que peut-être ces gens-là, qui n'avaient aucune ressource, se sont peut-être tournés vers Dieu, eux se sont tournés vers une autre sécurité qui pouvait les amener. Vous souvenez-vous ce que Jésus a dit après avoir rencontré le jeune homme riche? Il va être difficile, je vais vous le citer comme il faut, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » C'est une autre image, hein? Un chameau qui passe par le trou d'une aiguille. Pourquoi tu donnes une claque à Camille, Gaston? Il a de l'air d'un chameau. C'est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais là, la question des disciples, évidemment, au moins ils répondent à la question, mais qui c'est qui peut entrer au ciel? Puis là, ben, Dieu, Jésus a répondu, ben, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On verra tantôt, de façon abrégée, l'histoire de Zachée. Mais Jésus a dit que c'est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Ce qui est le plus difficile pour toute personne qui veut mettre son trésor en Dieu, c'est ce simple mouvement-là, d'abandonner à Dieu. Et Jésus le savait pertinemment, hein? Parce que c'est ça qu'il a dit au jeune homme riche. Abandonne, voir. Abandonne ce que tu as. Puis il a dit non, je ne suis pas capable d'abandonner. Je le tiens, puis il est reparti triste chez lui. C'est ça, c'est pour ça que c'est difficile. Et puis, il y a des richesses, bien, on n'est pas de même dessus, on est de même. Puis on a de la misère à les abandonner. Heureusement que Dieu nous vient en aide pour percuter nos cœurs, pour briser ce cœur qui est dur. La sécurité peut nous apporter une sécurité trompeur. La richesse peut nous apporter une sécurité trompeuse. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vers lequel des maîtres est-ce qu'on va se tourner pour obtenir une sécurité? C'est encore une question de perspective qu'on doit revenir. Entre la perspective de la sécurité terrestre et la sécurité que Dieu me donne. Proverbe 23, 4 et 5 dit « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Pourquoi? Ben, tu veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. » Si la sécurité, je la trouve dans ce que j'ai, dans la société actuellement et dans les richesses, Dieu me dit, ça s'envole. Je n'ai pas besoin de vous convaincre longtemps. Hein? On vient de passer une année difficile financièrement pour toute notre société, incluant les Amériques, incluant le monde. Et puis on réalise que la richesse, ça s'envole. Qui c'est qui aurait pensé qu'une banque puisse être en difficulté financière? Bien, c'est le cas présentement. Et les Écritures disent vrai. C'est où je trouve ma sécurité? Je continue à lire 1 Timothée 6 que je vous ai cité tantôt. Je vais citer le verset 17. 1 Timothée 6, 17. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. C'est où je place mon espérance? C'est où je trouve ma sécurité? Dans des richesses incertaines ou en Dieu qui est éternel? Mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » La fin du verset 7 dit ça. Dieu n'est pas contre les richesses, c'est lui-même qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. La vérité, c'est que ma monnaie est incertaine. Elle se fait des ailes. La vérité, c'est que la sécurité que procure l'argent est illusoire. La vérité est que Dieu me donne la sécurité absolue. La sécurité tant dans mes besoins primaires que dans toute la sécurité que mon âme a besoin en plus. J'aime beaucoup le psaume 139. David, il disait, je peux m'en aller, je vais le dire dans mes propres mots, OK? Vous pourrez le lire si vous voulez. Là. David disait, je peux m'en aller à l'autre bout du monde. Tu es encore là. Je peux m'en aller dans le ciel si je voulais. Tu es encore là. Je peux m'en aller dans les profondeurs de la mer aussi loin que Jonas est allé. Puis Dieu est encore là. David, il complète en disant, tu m'entoures par derrière, par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle science est si merveilleuse qu'elle est trop élevée pour moi. Ça, c'est la sécurité que Dieu me donne jour après jour. Sa présence, son support, son soutien. À quoi me servent mes richesses par rapport à mes péchés? Je ne peux pas me racheter. À quoi servent nos richesses par rapport à la mort? quand on sera sur notre lit de mort. Je ne peux rien acheter de plus. Ce que je veux, c'est la vie véritable que Dieu veut me donner. Qu'est-ce que je peux faire avec mes richesses quand vient la maladie? Dieu demeure là, contrairement aux richesses qui se font des ailes. On a vu à travers Jacques, placer son trésor en Dieu procure une vraie liberté. Et à ce moment-là, l'argent devient un bon maître aussi. Un bon serviteur. Je suis en train de me tirer dans le pied, là, je suis en train de dire le contraire. Placer son trésor en Dieu procure la liberté et les richesses et l'argent peuvent devenir un bon serviteur. Est à mon service. C'est pas elle qui va me dire comment je dois la servir. C'est Dieu qui va me dire comment je dois me comporter puis comment je dois traiter les richesses. C'est Dieu qui donne la liberté. C'est Dieu qui donne la sécurité qui fait que je vais dormir le soir. Et oui, l'argent est encore un bon serviteur. Jamais que Dieu a dit maintenant, dépense tout ce que tu as à chaque jour. Hein? Chaque jour suffit sa peine. Ben, aujourd'hui, tu as de l'argent, dépense tout ce que tu as. C'est pas ça non plus. Mais il est un bon serviteur. Puis la dernière chose que je veux qu'on voit à travers Jacques, c'est que placer son trésor en Dieu procure, je vais le dire comme ça, le pouvoir. Ou je ferais l'équivalent, ou peut-être un synonyme, la victoire. L'argent peut procurer une forme de pouvoir. Les conseils du pauvre, ils sont méprisés, même s'ils sont bons. C'est ça que les Écritures nous disent, hein? Salomon, qui était lui-même immensément riche, disait, il y a un homme pauvre, mais sage, qui savait comment sauver la ville, mais personne ne s'est souvenu de lui, parce qu'il était pauvre. Il n'avait pas le pouvoir. Les mauvais riches sont non seulement coupables d'avoir ramassé inutilement leurs richesses, mais aussi de les avoir acquises injustement, en abusant de leur pouvoir, en abusant de ce qu'ils ont. Loin d'être généreux envers les pauvres, comme l'Écriture le commande, ce qu'on va voir dans Jacques, ils les exploitent. Et à cette époque, les ouvriers étaient dépendants de leur maître. Regardez Jacques. On va lire le verset 4 et 6. On a lu en intercalé. On va lire 4 et 6. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Ils crient et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté. Lévitique 19:13 nous dit, « Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. » Deutéronome 24:14-15 nous dit, « Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil. » Dieu a toujours été clair. Les richesses peuvent amener, par exemple, une personne à être maître sur d'autres pour leur confier un travail. Mais Dieu a toujours été clair que ces maîtres-là ont une responsabilité face à leurs employés, face à leurs serviteurs, à leurs mercenaires, des payés. Parce qu'ultimement, c'est qui les entend, ces gens-là, quand ils crient? C'est qui les entend puis qui voit leur souffrance quand que leur maître ne les traite pas bien? C'est Dieu lui-même. On ne peut pas tromper Dieu sur nos œuvres. On ne peut pas tromper Dieu sur notre propre cœur. L'escroquerie, la condamnation, regardez le verset 6, il dit, vous avez condamné, vous avez même tué le juste qui ne vous a pas résisté. Sur l'abus, sur la tromperie, Dieu voit et entend tout cela. Puis leurs cris sont montés jusqu'à mes oreilles, disait Dieu. Avec une foi authentique découlent des œuvres authentiques. Ces gens-là, ces riches-là, avaient un pouvoir entre leurs mains et ils opprimaient, ils faisaient du mal à leurs serviteurs. Je vais juste vous citer encore 1 Timothée 6, 18 et 19. Recommande aux riches de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur le fondement solide afin de saisir la vie véritable. S'il n'est pas déjà souligné dans vos Bibles, faites-le. Verset 19, de s'amasser, et ça c'est pour chacun d'entre nous, s'amasser pour l'avenir un trésor. Quand je place mon trésor en Dieu, il le fructifie. Il y a des intérêts. Quand je place mon trésor en Dieu, contrairement à quand je place mon trésor dans les richesses, je perds d'intérêt. Un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. C'est quoi la vie véritable? Qui c'est qui ne veut pas vivre la vie véritable? C'est d'être généreux. Est-ce que Dieu me confie de le mettre pour sa gloire? Pas pour mon pouvoir, pas pour dominer, mais pour la gloire de Dieu. C'est ça que Dieu est en train de me dire. De dire aux riches du présent siècle d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Zachée était un homme riche, chef des publicains, beaucoup d'argent, qui suit l'histoire du jeune homme riche. Et Zachée a compris que Dieu venait le rencontrer, que Dieu voulait quelque chose de lui. Il a compris que le pouvoir qu'il pouvait avoir à dominer sur les gens, puis à extorquer les gens, puis à ramasser plus que ce qui lui était dû, c'était pas un réel pouvoir qui apportait une réelle satisfaction. Et il a probablement entendu les enseignements de Jésus, il a probablement entendu parler de lui, connu ce qu'il était, et il a dit, viens manger chez nous. Et Zachée, je vais juste vous lire versets 8 et 9 de Luc 19, Zachée, se tenant devant le Seigneur, pendant le souper, on imagine, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Ça voulait dire quoi, ça? Cet homme-là, il n'a pas fait vœu de pauvreté, puis il n'a pas dit, maintenant, c'est fini, tous mes biens, je m'en vais vivre dans le désert, c'est fini. Il a dit, je prends la moitié de mes biens, je les donne aux pauvres. Les gens que j'ai extorqués, je leur rends au quadruple. On imagine qu'il devait y en rester quand même, là. Mais cet homme-là a rencontré Jésus. Et je dirais, plus que pour un souper, il l'a rencontré avec son cœur. Et ce qu'il a dit à Jésus, ce que Jésus manifeste dans cette relation-là qu'il a rencontré avec lui, c'est que cet homme-là était prêt à abandonner ses richesses pour avoir cette relation-là avec Dieu et de devenir un serviteur de Dieu et pas de mammon. Les fils d'Abraham, Galates nous dit clairement que c'est pas ceux qui ont le sang d'Abraham puis qu'on est des Juifs, c'est ceux qui ont la foi d'Abraham. Une foi authentique emmène des œuvres authentiques. Cet homme-là, il est devenu généreux. Contrairement aux riches qu'on voit dans Jacques, vous avez condamné, vous avez tué, vous avez extorqué vos serviteurs. Le contraste est évident entre une nouvelle créature qui sert Christ et quelqu'un qui a ses richesses pour maître. Dieu nous donne la victoire en lui. La victoire sur le péché, la victoire sur le malin, la victoire sur les dépendances, la victoire sur mes tentations, sur mes convoitises, sur mes pensées. Il me donne la victoire sur tout ce qui fait un réel sens à ma vie véritable que je peux avoir en lui. La victoire de saisir la vie abondante en Jésus-Christ et de produire des œuvres authentiques. Quel est notre rapport par rapport à ce que l'on a, par rapport à nos possessions? Dieu veut qu'on abandonne cette illusion que les richesses peuvent nous donner de liberté, de sécurité ou de pouvoir, mais qu'on continue de placer dans notre cœur, ou qu'on place notre trésor en lui, puis que notre cœur suit aussi, afin qu'on goûte la réelle liberté, afin qu'on vive la réelle sécurité en lui, afin qu'on vive une réelle victoire en lui, jour après jour. Je vais terminer par la prière. Seigneur, on vient devant toi pour te dire merci. Le texte qu'on vient de lire ce matin dans Jacques, que toi tu nous dis, est dur à entendre. Mais en même temps, c'est toi qui nous parles. En même temps, Dieu, c'est toi qui veux venir mettre le doigt sur nos cœurs, sur nos vies. Seigneur, on voit nous-mêmes souvent pas clair dans notre propre relation avec toi. Dans nos propres motifs intérieurs, on a de la misère à faire nous-mêmes la lumière. Seigneur, on veut placer notre cœur devant toi, que tu viennes le sonder, que tu nous montres clairement il est où notre cœur. C'est en toi qu'on veut le placer, notre trésor, que notre cœur soit rempli uniquement par toi. Tu nous combles de toutes sortes d'abondance, de toutes sortes de richesses. Puis on veut te dire merci. Puis on veut te louer pour ça, parce que toi-même qui es riche, tu nous la donnes cette richesse, tu nous la communiques. Et on veut te louer pour ça. Et Dieu, on veut s'engager à continuer de placer notre confiance, notre foi en toi, en levant les yeux vers toi, sachant que toi seul communiques la liberté, la sécurité, la victoire. Merci Seigneur d'être ce Dieu vivant. Amen.